Alors ce soir, on est dans ce troisième volet sur l'Apocalypse et on a vu dans les dimanches précédents, le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3 et en préparant le chapitre 4, je me suis dit, ah mais il me semblait au chapitre 3, il y a un moment donné, je ne sais pas si vous vous souvenez, on parlait de l'étoile du matin et puis je vous ai dit, je ne sais pas trop, puis après je me suis dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Et je me suis dit, mais c'est pourtant pas si compliqué. L'étoile du matin, pourquoi est-ce qu'on parle du matin? Pourquoi est-ce qu'on parle d'une étoile du matin? L'étoile du matin, c'est l'étoile qui annonce le point du jour. C'est l'étoile qui annonce le lever du jour. C'est l'étoile qui annonce que le jour se lève bientôt et que le soleil arrive. Et donc, cette étoile du matin fait référence à la venue du jour. Et évidemment, dans le contexte, on comprend que c'est le jour du Seigneur. Et donc cette étoile du matin est celle qui donc annonce la venue du Seigneur et du jour du Seigneur. Nous, on est ce soir avec le chapitre 4. Alors si vous avez votre Bible, on est dans l'Apocalypse, chapitre 4. Vous avez bien compris que dans le chapitre 1er, Jean présente un petit peu le décor et insiste bien sur le fait que le livre de l'Apocalypse est une révélation qui a pour but de nous rendre heureux. Heureux celui qui comprend. Et l'Apocalypse, ce n'est pas un message triste, ce n'est pas un message de catastrophe, c'est un message d'espérance, un message d'espoir, un message qui vient réjouir notre cœur. Ça commence, et ce n'est pas par hasard que ça commence avec sept épîtres à sept églises, comme quelque part on met les choses d'aplomb avec les sept églises avant d'arriver au chapitre 4 où c'est le trône de Dieu. Parce que avant d'arriver au trône de Dieu, avant de pouvoir même saisir et comprendre la révélation glorieuse du trône de Dieu, il faut se sanctifier. Qui entrera dans le lieu très saint? Celui qui a des mains pures. Vous vous souvenez ça dans un psaume? Et avant même de pouvoir lire même quelque part cette vision du trône de Dieu, les épîtres sont envoyées avant, et ce n'est pas par hasard que c'est dans cet ordre-là. Et de la même manière, si nous voulons pleinement saisir la vision du trône de Dieu, il faut déjà que dans notre vie, il y ait du trône de Dieu. Comprenez que si dans notre vie, nous vivons croche, nous vivons dans le péché, nous vivons dans des choses qui sont impures, comment comprendre la pureté, la beauté, la grandeur et la gloire de Dieu si dans notre vie il y a des choses comme ça qui sont attachées à nous-mêmes? Et nous avons besoin, et selon les épîtres de l'Apocalypse, des fois de se repentir, de corriger et de mettre les choses d'aplomb avant d'arriver au chapitre 4. Et voilà ce qui se passe donc, chapitre 4, verset 1er. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Il y a un accès qui est là. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et je ne vous referai pas la voix comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens s'attachent à ce genre de petites phrases en disant, justement, ça m'intéresse. Je veux savoir ce qui va arriver dans la suite. Et peut-être que certains sont venus ici ce soir en disant « Je veux lire l'Apocalypse pour savoir ce qui va arriver. Ce qui va arriver au Moyen-Orient, ce qui va arriver à Jérusalem, ce qui va arriver en Égypte, ce qui va arriver à tel et tel endroit, évidemment, au Québec. » Et on est curieux de savoir ce qui va arriver. Mais quand la voix lui dit « Monte et je te ferai voir ce qui va arriver dans la suite », la première chose qu'il voit, c'est comme si c'était la dernière page du livre. Je ne sais pas si vous, quand vous lisez un livre, vous aimez bien lire déjà la dernière page avant de lire un petit peu tout ce qu'il y a dans le livre. Mais là, quelque part, il ne va pas lui faire voir ce qui va se passer dans les années à venir. Il ne va pas lui faire voir ce qui va se passer dans les siècles à venir. Il commence par lui montrer ce qui est intemporel, ce qui est immuable, la gloire de Dieu, le trône de Dieu. Et voilà ce qui se passe, verset 2. Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit. Ou des fois, ça a été traduit, je fus ravi en esprit. Et là, évidemment, quand on traduit en français, c'est toujours délicat parce qu'il peut y avoir plusieurs manières de traduire ici. Est-ce que ça veut dire que c'est dans son esprit qu'il a eu cette vision, comme une vision dans l'esprit, ou est-ce que c'est l'esprit qui l'a transporté et qui l'a emmené dans la gloire? Et j'allais dire qu'importe, ça ressemble un petit peu à la parole de l'apôtre Paul qui dit « Je connais un homme qui est monté dans le ciel hein, », il dit « Serait-ce dans son corps ou pas, dans son esprit ?» Qu'importe. Ce qui est important ici, c'est qu'il a vu, c'est ce qu'il a vu et c'est la révélation qu'il a reçue. Et il dit voilà, « Voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. » Waouh ! Jean a la révélation et ça veut dire ça, Apocalypse. Hein. Ça, n'oubliez pas que Apocalypse, Apocalypsis, ça veut dire révélation. Jean a cette révélation du trône de Dieu. Et s'il y a un trône, ça veut dire qu'il y a un roi. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui règne. Ne l'oublions pas. Il est dit, verset 3, « Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. » Alors, c'est des pierres qu'on utilise peut-être moins. Je ne sais pas s'il y en a qui ont de la jaspe et de la sardoine dans leur bague, mais ça peut peut-être exister encore. Mais en tout cas, c'était des pierres précieuses. Peut-être qu'aujourd'hui, on parlerait les pierres les plus répandues, c'est peut-être le rubis, le saphir ou le diamant. Mais à cette époque-là, c'était des pierres précieuses qui étaient connues, de pierres de jaspe, de sardoine. On se souvient que le souverain sacrificateur avait un éphod sur lequel il y avait 12 pierres précieuses qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Donc ici, on parle de... Et il y avait ces pierres-là, entre autres. On parle de pierres précieuses. Donc, on voit que c'était un trône qui était glorieux, qui était magnificent. C'est ce que ça veut dire ici. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Un trône, et autour de ce trône, 24 autres trônes. Évidemment, nous, comme on est du genre curieux, on veut comprendre ce qui se passe ici, en disant, bon, ça veut dire quoi? Un trône et 24 autres trônes autour de ce trône. Mais écoutez, j'y suis pas allé. Et je ne vais pas vous dire, voilà ce que ça... En tout cas, ce que ça représente, ça veut dire déjà, il n'y avait pas qu'un seul trône. Vous êtes d'accord avec moi? Puisqu'il y en avait 24 plus un. Mais il y a un trône et on voit 24 autres trônes. On voit que celui qui est assis sur le trône n'est pas un dictateur qui est le seul à régner, mais qui quelque part collabore avec 24 autres trônes. On voit qu'il y a ici une participation où il y a 24 autres vieillards qui, quelque part, règnent avec celui qui est sur le trône. Et ça, ça nous en dit beaucoup sur Dieu. Ça nous montre que Dieu n'est pas celui qui dit « Moi, je suis le chef, et puis un point, c'est tout, et personne n'a rien à dire », mais que quelque part, il a autour de lui 24 vieillards qui, eux aussi, sont assis sur un trône et quelque part règnent et participent aux décisions du royaume. Et on le comprend dans le Nouveau Testament quand l'apôtre Paul nous dit par exemple que nous sommes ouvriers avec Dieu. Pas seulement ouvriers pour Dieu, mais ouvriers avec Dieu. Il nous associe à son ministère. Et Dieu n'est pas celui qui dit « moi je fais, vous, vous vous asseyez, vous regardez », mais il dit « faites avec moi, agissez avec moi ». Et même, il fait de nous des ambassadeurs, il fait de nous sa voix, il fait de nous ses mains. Et quelque part, il nous donne de participer à l'avancement du royaume de Dieu. Et ce que Jean voit ici, eh bien, dans ces 24 trônes avec ces 24 vieillards, eh bien, montre un Dieu qui collabore et qui, quelque part, est entouré de 24. Alors, pourquoi 24? Alors, certains diront, ben, 24, c'est 12 plus 12. Vous l'aviez vu ça? Hein, c'est pas une caisse de bière, hein, c'est 12 plus 12. Et pourquoi 12 plus 12 ici? Eh bien, certains vont dire que ben, ça peut être les 12 tribus de l'Ancien Testament, les 12 tribus qui n'étaient pas 12, mais bon, les 12 tribus. Pourquoi ils n'étaient pas 12? Parce qu'on ne compte pas Lévi dans les 12. Et puis, il y avait des demi-tribus qui sont des tribus. Enfin, mais c'est les 12 patriarches. Il y a les 12 ici. Bien qu'il veut dire, mais dans le Nouveau Testament, Jésus aussi a 12. Enfin, 12, pas tout à fait 12, puisqu'il y en a un qui n'est pas resté longtemps, et puis qui a dû être remplacé, et puis qu'il y en a un qui s'appelle apôtre, mais qui ne fait pas partie des 12. Donc, si on compte Paul comme apôtre, il devient 13. Mais vous comprenez qu'ici, ce n'est pas le chiffre exact en disant il y a exactement 12 patriarches. Et mais c'est ce que ça représente. Les 12 patriarches de l'Ancien Testament, quelque part, et comme les 12 apôtres du Nouveau Testament. Mais ça, c'est notre vision à nous. Ça ne veut pas dire, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ça ne veut pas dire que les 24 vieillards là-haut, ce sont les 12 patriarches et les 12 apôtres. Notez en passant que Jésus, à un moment donné, a dit à ses disciples, il y a dans le ciel 12 trônes sur lesquels vous allez régner avec moi. Non ? Bon, alors est-ce que ça veut dire que ces vieillards, c'est les 12 qui sont là ? Mais Jean a la vision, s'il fait partie des 12, comment est-ce qu'il peut voir un vieillard si lui-même fait partie des vieillards? Vous me suivez? Ça devient compliqué. Hein? Donc, c'est pas ici, il ne faut pas tomber dans le piège de vouloir à tout prix identifier qui sont ces 24 vieillards, mais on comprend ici eh bien, qu'il y a autour du trône de Dieu eh bien, d'autres qui participent, que Dieu n'est pas un Dieu, comment dire, qui fait tout par... C'est un Dieu qui est suffisant. Il peut tout faire par lui-même. Il n'a besoin de personne. Dieu n'a besoin de personne. Mais il invite à collaborer avec lui. Et les 24 vieillards qui sont autour de lui sont comme quelque part des collaborateurs. Évidemment, on n'est pas au même niveau ici. Mais on voit qu'on a un Dieu qui invite à collaborer. Et nous sommes, nous aussi, et ça c'est un privilège, invités à collaborer avec lui. Et ça, c'est une grâce, ça, c'est une gloire. 24 vieillards sont là, avec un vêtement blanc et sur leur tête des couronnes d'or. Verset 5. Et à partir de maintenant, on est attentif aux détails et particulièrement à ceux qui vont faire référence à des choses connues de l'Ancien Testament, si vous connaissez bien votre Bible. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Et ça nous rappelle, si vous vous souvenez bien, ce qui s'est passé à la montagne du Sinaï, quand Moïse est monté sur la montagne et que le peuple avait peur de s'approcher de cette montagne, parce qu'il y avait justement des éclairs, du tonnerre. Et quelque part, on dit, mais ce que Jean voit ici, et puis on aura l'occasion de le valider dans la suite du texte, ce que Jean voit ici est quelque chose de connu quelque part, que le peuple d'Israël a déjà expérimenté concernant eh bien, la présence de Dieu, la gloire, sa puissance et sa magnificence. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Donc on voit que Dieu ici comme matérialisé par 7 esprits. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Et au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Ça se complique là. Je ne sais pas comment vous faites un dessin avec ça. 4. Alors, tout à l'heure on en avait 24, là on a 4. Alors ceux qui aiment les chiffres vont dire « Ah ben ça doit être les 4 évangiles », bon, un peu facile, mais en tout cas, il y a 4 êtres vivants qui ont des yeux partout. Ouah, ça commence à être un petit peu déconnecté de ce qu'on a l'habitude de voir. Et quelque part, on se dit « Jean, il n'a pas pu l'inventer ça quand même, ou alors spécial. Hein. » Mais voilà ce qu'il voit. Et il dit « Le premier être vivant est semblable à un lion ». Le second être vivant est semblable à un veau. On dit, attendez, on est bien au ciel là? Un veau? Une tête de veau? Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Waouh! Peut-être vous, ça vous paraît bizarre, mais comme vous avez l'habitude de lire la Bible, vous avez certainement lu Ézéchiel. Ça vous dit quelque chose? Ézéchiel, chapitre 1er. Et il dit par exemple, Ézéchiel 1.5, au centre encore apparaissaient quatre animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Ézéchiel 1.5. Ézéchiel 1.6, chacun d'eux avait quatre faces et chacun avait quatre ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante des pieds comme celle, était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme de l'airain poli. Et on va un petit peu au verset 10. Quant à leur figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous les quatre une face de lion à droite, tous les quatre une face de bœuf à gauche, et tous les quatre une face d'aigle. Bon, dans Ézéchiel, c'est peut-être un peu plus compliqué parce qu'il y a quatre animaux qui ont quatre faces, quatre visages. Mais notez bien que les visages ici font référence au même traits qu'on trouve dans l'Apocalypse. Alors, pour comprendre l'Apocalypse, il faut comprendre Ézéchiel. Mais est-ce qu'on est obligé de comprendre? Est-ce qu'on est obligé forcément de donner un sens à ce qui se passe ici? Moi, ce que j'aimerais pour l'instant vous inviter à comprendre, c'est que ce que Jean voit est biblique. Il ne voit pas quelque chose de nouveau, de bizarre, même si ça paraît bizarre quand même, hein, pour nous, il ne voit pas quelque chose de différent que ce que les prophètes avaient déjà dit. Et quelque part, il confirme par là la vision des prophètes. Et on dit, mais c'est normal, si Ézéchiel voit le trône de Dieu et que Jean voit le trône de Dieu, c'est normal à un moment donné qui voit la même chose, si on parle de la même chose. Et il n'y a rien de surprenant ici de trouver des caractéristiques d'Ézéchiel dans l'Apocalypse, parce qu'on parle ici de la même réalité. De la même manière dans l'Apocalypse, quand ça continue un peu, il dit, verset 8, « Les quatre êtres vivants ont six ailes, ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dessus, dedans, ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu. Saint, Saint, Saint. » Ça me dit quelque chose, ça. Ésaïe, chapitre 6. Ésaïe voit le trône de Dieu avec les pans de la robe du trône de Dieu. On va y aller si vous... Vous connaissez ça par cœur, non? Ésaïe chapitre 6, il dit « Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. » Chapitre 6, verset 2, Ésaïe, c'est bon, ça va vite? Non, on n'y est pas encore là? On n'y est pas encore? Ésaïe chapitre 6, verset 2, ça s'affiche à l'écran. Mais enfin, vous avez vos bibles, vous avez trouvé avant. Il est dit « Ils avaient chacun six ailes dont ils se couvraient la face » deux dont ils se couvraient les pieds et deux dont ils se servaient pour voler. Et ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Et quelque part, la vision d'Ésaïe ici, alors qu'Ésaïe voit le trône de Dieu avec ses êtres et ses séraphins qui ont six ailes, on trouve quelque chose de similaire et d'identique dans l'Apocalypse et il n'y a rien de surprenant. Quand Ésaïe voit le trône de Dieu et que quand Jean voit le trône de Dieu, qui voit des choses pareilles. Et vous avez bien vu la connexion là. Quand il est dit dans l'Apocalypse, eh bien, il disait Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Ici, il disait Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées et toute la terre est pleine de sa gloire. Jean ne voit pas quelque chose d'étrange. Et l'Apocalypse n'est pas déconnecté du reste de la Bible. Et des fois, trop souvent, on a tendance à croire que l'Apocalypse est un livre à part où Jean a vu des choses bizarres. Mais des choses bizarres, il y en avait déjà avant. Que ce soit dans Ézéchiel, que ce soit dans Ésaïe, des séraphins qui ont six ailes. Ça s'appelle comment des gens qui ont six ailes? Hépoptères? Il faudrait qu'on vérifie ça. Comment vous allez chercher comment on appelle des libellules? Ça a combien d'ailes, des libellules? 4, 6, 8? Bon, vous irez vérifier dans un livre de biologie. Je ne l'ai pas fait, j'aurais dû peut-être le faire avant de venir ce soir. Mais en tout cas, les animaux qui ont six ailes, c'est six ailes pour voler. Mais eux, ils ont six ailes, mais il n'y en a que deux qui servent à voler. Puisqu'il y a une paire d'ailes qui est pour se cacher les pieds et une autre paire d'ailes pour se cacher la face. C'est-à-dire, ils ne voient pas où ils vont. Vous comprenez que si on veut aller au bout des images, on peut finir par faire dire aux images ce qu'ils ne disent pas. Et quand ces séraphins ont les ailes devant leur face, d'ailleurs, dans Ésaïe, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière leur face, puisqu'ils ont des ailes devant. Est-ce que c'était une face qui ressemblait à un bœuf, à une face d'homme, à, on ne sait pas, à un lion ou à un aigle? En tout cas, ils avaient des ailes devant leur face. Pourquoi ils ont des ailes devant leur face? Parce que la sainteté, la gloire, la vision du trône de Dieu, eh bien, est trop glorieuse pour qu'ils le voient de leurs propres yeux, de leur propre face. Et ils disent, gloire, saint, 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 et l'Éternel des armées. Jean, et j'insiste là-dessus, et s'il n'y a qu'une chose à retenir ce soir, c'est celle-ci, Jean ne voit pas des choses nouvelles. Quand il voit le trône de Dieu, c'est le trône de Dieu. C'est le trône de Dieu il y a 2000 ans, c'est le trône de Dieu il y a 4000 ans, c'est le trône de Dieu d'éternité en éternité. Et il n'y a pas, mais avant le trône de Dieu c'était comme ça, maintenant le trône de Dieu c'est modernisé, c'est différent. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'âge avec Dieu. Il n'y a pas d'espace-temps comme ça. La vision que les prophètes de l'Ancien Testament ont pu avoir du trône de Dieu, il n'y a rien de surprenant à ce que dans l'Apocalypse, Jean voit une vision qui est similaire et qui a le même langage, les mêmes aspects et les mêmes descriptions que ce que les prophètes de l'Ancien Testament ont pu avoir. Maintenant, nous, en ce qui nous concerne, que ça nous échappe, que l'on ne comprenne pas tout, c'est normal. C'est normal. Qu'on essaye de faire des dessins de séraphins avec six ailes, essayez. Mais votre dessin sera toujours décalé par rapport à la réalité. Que vous dessinez un être qui a quatre faces, un visage là, un visage là, un visage là, un visage là, comment ça te fait? La tête tourne ou comment vous allez dessiner ça? Ce ne sera jamais exactement conforme à la réalité. Comment vous dessinez un être qui a des yeux partout? Où vous mettez la bouche s'il y a des yeux partout? Et comment il a pu reconnaître un lion s'il y a des yeux partout? Et comment il a pu reconnaître que c'était un bœuf s'il y a des yeux partout? Vous comprenez que si on se pose, comment dire, à force de se poser des questions, et à force de vouloir gratter et comprendre et comprendre et comprendre, on finit des fois par sortir des absurdités. Et nous, on ne veut pas faire ça quand on lit l'Apocalypse. On veut prendre les choses telles qu'elles sont dites, mais pas aller plus loin que ce qui est dit. Et si on ne comprend pas, on ne comprend pas. Ce qu'on a à comprendre, c'est qu'il y a quelque chose ici qui est différent de ce qui se passe sur la terre des hommes. C'est le moins qu'on puisse dire. Qu'on est dans un contexte céleste, avec des êtres célestes, avec des êtres qui sortent de notre ordinaire à nous, mais ce qui est important ici, ce n'est pas la description physique de chacun des personnages, mais c'est ce qu'ils font, c'est ce qui se passe. Ils se prosternent, ils rendent gloire à Dieu en disant, Saint, Saint, Saint. Il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu. Et on voit que dans cette déclaration, on pourrait voir la Trinité par exemple dans le Saint, 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 mais on voit dans cette déclaration ici qu'on insiste sur la sainteté de Dieu. Comme si l'attribut le premier attribut remarquable du trône de Dieu, c'est sa sainteté. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit mémoriser ce soir. Que lorsque l'on prend conscience que Dieu est assis sur le trône, l'attribut principal ici de cette vision, c'est sa sainteté. C'est le lieu très saint. Il est saint, saint, saint. Et quand on réalise ces choses, quand Moïse a réalisé qu'il était dans la présence du Dieu saint, eh bien, il ne pouvait pas être là comme dans un espace ordinaire. Ôte les souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu es est un lieu saint. Parce qu'il est dans la présence du Dieu saint. Et lorsque nous-mêmes, nous nous approchons de Dieu, n'oublions jamais que c'est un Dieu saint. Et qu'on ne s'approche pas de Dieu d'une manière inconsidérée, mais il faut se sanctifier avec révérence, et c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport aux épîtres de l'Apocalypse, qui amènent à la sanctification avant de rentrer dans la présence du Dieu saint. Verset 9. Quand les êtres vivants rendent gloire... Pardon, j'ai oublié quelque chose au verset 8. Il disait « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu, le Tout-Puissant, donc un deuxième attribut, Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Et ça fait référence directe à la révélation que Moïse a eue dans le buisson d'ardent de ce Dieu qui était, qui est et qui vient. Verset 9. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, celui qui vit au siècle des siècles, donc d'éternité en éternité, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance » car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. On voit ici que Dieu est celui qui est saint, on voit qu'il est le Tout-Puissant et on voit qu'il est le Créateur. Et les 24 vieillards qui sont assis sur le trône, sur leur trône, ne sont pas en disant « c'est ma place, j'y reste », mais se prosternent devant celui qui est assis sur le trône glorieux et même jettent leur couronne à ses pieds en disant « Tu es digne. » Et ça, ça nous rappelle directement ce qu'on avait lu au chapitre premier. Et au chapitre premier, ça nous concernait davantage. Comme si, n'oubliez pas qu'ici, au chapitre 4, on a une vision dans le ciel. Mais au chapitre premier, c'était nous sur la terre. Et voilà ce qui se passe, nous sur la terre. Et je vous ramène au chapitre premier, verset 5b, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, c'est typiquement l'humanité terrestre, eh bien à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume. Et même littéralement, certains, et la NIV, New International Version, les Anglais ont plus traduit comme ça, qui a fait de nous des rois. Alors, il y a peut-être 24 vieillards qui sont assis sur des trônes, mais nous aussi, quelque part, même si on ne fait pas partie des 24, nous avons aussi un appel à être des rois, à régner avec lui. Et il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Et là, on a le même vocabulaire, des sacrificateurs pour Dieu son Père, et on a le même vocabulaire qu'au chapitre 4. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Et on voit que la louange que nous sommes appelés à rendre à Dieu sur la terre, et en harmonie avec celle qui lui est donnée dans le ciel. Et quand on réalise ces choses, nous sommes appelés dès aujourd'hui, dès ici-bas, à louer Dieu, à l'adorer de la même manière qu'au ciel. Au ciel, on se prosterne, on l'adore, il est digne de louange et de gloire. Et aujourd'hui, et ce n'est pas pour rien que dans la plupart de nos chants, nous reprenons ce genre de vocabulaire, parce que la louange qu'on veut lui rendre, l'honneur qu'on veut lui rendre, eh bien, est calquée sur cette révélation que nous avons de la louange qui lui est donnée dans le ciel. Alors, je reviens au chapitre 4. C'est ça. Donc, il est le Créateur. J'arrive au chapitre 5. Parce qu'il faut qu'on avance. On a dit qu'on faisait 4 et 5 ce soir. Chapitre 5. Il dit ensuite, Ensuite, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre, écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et on va avoir à partir du chapitre 6 l'ouverture de ces 7 sceaux. Et puis là, ça devient peut-être un peu plus compliqué. Mais pour l'instant, il y a donc un livre qui est écrit à l'intérieur et à l'extérieur. Bon, là encore, c'est du recto verso, mais ça ne veut pas dire ça seulement. C'est un livre qui est un peu différent des autres livres, à l'intérieur et à l'extérieur, parce qu'il est scellé, ça veut dire qu'il est comme fermé par 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, et on comprend que Jean est impressionné par la puissance de sa voix, et qui disait, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et on est ici dans une vision céleste, on ne cherche pas un homme ici. On cherche une créature céleste. Il y a des vieillards, 24 vieillards qui sont assis. Est-ce qu'il y en a l'un des 24 qui est digne? Il y a des êtres qui ont des yeux partout, qui ont des faces spéciales. Est-ce qu'eux seraient dignes? Il dit, qui est digne? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, et pour être sûr qu'on comprenne bien, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et on comprend que si on ne peut pas l'ouvrir, on ne peut pas voir ce qu'il y a dedans. Mais personne ne put l'ouvrir ni le regarder. Et Jean a été émotionnellement impacté par cette vision-là. Et il est dit, et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Parce que pour Jean, il y a comme un décalage ici. Écoutez, imaginez si on était à la place de Jean, il y a une porte qui s'ouvre, qui lui permet, hein, ça commence comme ça, une porte s'ouvre et il est ravi en esprit dans le ciel, il voit des choses glorieuses, il trouve tout le monde extraordinaire, formidable, c'est magnifique, et pourtant, personne n'est capable d'ouvrir ce livre. Personne n'est digne, personne n'est assez bien. Il va dire, mais si eux ne sont pas assez bien, qui le peut l'être ? Il voit des choses formidables et personne n'est digne d'ouvrir le livre. Et il est attristé de cela. Mais l'un des vieillards, ne me demandez pas lequel, c'est un des 24, mais l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Et là, on comprend qu'il y a un être céleste différent des autres. Et dans la description, eh bien, nous, on fait tout de suite les connexions. Puisqu'il est dit, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, c'est donc ce messie davidique, ce messie de la descendance de David, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Et on comprend que si le lion de Juda, le rejeton de la tribu de David, est digne d'ouvrir les 7 sceaux, c'est parce qu'il y a eu une victoire. C'est bien ça ce qui est marqué dans cette phrase? Il a vaincu pour, afin de, ouvrir le livre et les 7 sceaux. Et on comprend que ce que Jésus a accompli à la croix du calvaire, que la victoire sur la mort n'est pas simplement d'une importance capitale terrestre, mais aussi céleste. Que ce n'est pas simplement une victoire pour les humains, mais il y a une victoire dans le ciel ici et qui a des conséquences même dans le ciel. Il est digne. Il dit, verset 6, « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau. » Et comprenez que dans l'Apocalypse, ça peut être assez mêlant si vous voulez faire un film avec ça. Parce que si vous voulez faire un film avec ça, vous commencez par dire c'est le lion. Alors vous mettez un lion. Vous allez chercher un lion, vous trouvez, vous faites un casting, vous trouvez un lion qui fait l'affaire. Et après il dit c'est un agneau. Comment on passe du lion à l'agneau ici? Vous comprenez que c'est à la fois le lion et c'est à la fois l'agneau. C'est comme si Jean voit un lion. Il se retourne et il voit un agneau, mais il comprend que c'est le même personnage. C'est-à-dire que ça ressemble un petit peu à Ézéchiel, où il y avait 4 êtres vivants qui avaient une tête un lion, une autre tête, une face d'humain, une autre tête, un aigle, une autre tête, un bœuf. Et là, je ne sais pas si ça marche comme ça, je ne veux pas dire ça, ce n'est pas marqué, mais on comprend qu'il y a un fonctionnement dans le ciel qui est bien différent que ce qu'on connaît ici. Et que cet être est à la fois le lion de Juda et à la fois l'agneau. Et pas juste un agneau, mais un agneau comme immolé, qui a des traces, des stigmates du sacrifice par lequel il est passé. Puisque ce n'est pas juste un agneau qui est là, blanc et immaculé, mais c'est un agneau que l'on comprend qu'il a été immolé. Un agneau comme immolé. Et après vous allez dire, attendez, un agneau avec 7 cornes et 7 yeux. C'est bien ce qui a marqué ? Il avait 7 cornes et 7 yeux. 7 cornes et 7 yeux. Waouh ! Comment vous dessinez ça ? C'est-à-dire que ce n'est plus un agneau, hein ? Et ces 7 yeux, il est dit, ce sont les 7 esprits de Dieu. Alors, si cet être divin a les 7 esprits de Dieu, on comprend que ce n'est pas un être céleste comme les autres, puisque lui, il a les 7 esprits de Dieu. Et évidemment, si vous avez l'habitude de lire la Bible, vous savez que le lion de Juda ou l'agneau de Dieu, c'est Jésus. Et que Jésus ici n'est pas un personnage céleste comme les 24 vieillards ou comme les séraphins ou comme les autres ou les 4 êtres vivants, mais qu'il a les 7 esprits de Dieu, qu'il est divin, qu'il est Dieu lui-même. Même si pour nous, on le voit sous différents traits, que ce soit le lion de Juda, puis on comprend que le lion de Juda parle de royauté, de force. Hein, le lion, c'est le roi des animaux. Et puis que le lion de Juda, hein, vous comprenez que les rois, David était issu de la tribu de Juda et que les rois venaient de la tribu de Juda. Donc il est ce roi, mais il est aussi cet agneau. Et qu'il y a comme ce paradoxe en Jésus où il est à la fois le roi vainqueur conquérant et à la fois le serviteur souffrant, blessé, immolé pour le péché du monde. Mais malgré le fait que ce soit l'agneau immolé, ça ne veut pas dire qu'il est dans un état de faiblesse en disant « pauvre petit », mais il est le seul qui est digne d'ouvrir ce livre-là. Et s'il est digne d'ouvrir ce livre, c'est justement parce qu'il est l'agneau qui a été immolé, parce qu'il a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Alors, celui qui est l'agneau de Dieu, celui qui est le lion qui est l'agneau de Dieu, il est dit au verset 7, il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône, et quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent chacun devant l'agneau. Tout à l'heure, on a vu les 24 vieillards qui se prosternaient devant le trône de Dieu. Et maintenant, on a la même adoration qui est devant l'agneau. On voit que l'agneau reçoit la même adoration que celui qui est assis sur le trône de Dieu. Il n'est pas moins et il n'est pas inférieur. Il reçoit la même louange, la même gloire il est vénéré de la même manière, la même adoration. Alors, on est là au verset 8, je vérifie ça. Et il est dit, les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et là, on a une petite connexion avec nous en disant, nos prières, elles ne tombent pas dans le vide. Et que quelque part, quand les 24 vieillards se prosternent devant l'agneau, les prières des saints, et vous faites, hein, les saints dans le langage du Nouveau Testament, eh bien, ce sont les chrétiens, ce sont ceux qui ont été lavés par le sang de l'agneau, qui ont été sanctifiés, mis à part, eh bien, les prières des saints sont associées à l'adoration des 24 vieillards. Verset 9, et ils chantaient un cantique nouveau en disant, je ne veux pas insister sur le cantique nouveau ici, en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume, et là on reprend ce qu'il y avait au chapitre 1er, hein. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Alors, au niveau des faits, de manière très pragmatique, on apprend ici que les saints vont régner sur la terre, on aura l'occasion d'y revenir là-dessus. Mais néanmoins, ce qui est important de retenir ici, c'est que, aussi bien sur la terre qu'au ciel, eh bien, l'objet de notre adoration est centré sur la croix. Et on comprend pourquoi l'apôtre Paul, eh bien, va mettre autant d'importance à la prédication de la croix. Et qu'aujourd'hui, on ne peut pas enlever la prédication de la croix. Parce que dans le ciel, c'est la clé. Il est digne d'ouvrir le livre qui est scellé de sept sceaux parce qu'il a été immolé à la croix. Parce que son sang a coulé pour le rachat des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et malheureusement, aujourd'hui, dans trop d'églises, on essaye d'édulcorer ce message et de dire qu'il ne faut pas trop parler du sang, là, c'est pas populaire. Hein. Il ne faut pas trop parler de la croix, quand même, c'était violent. Et puis, Dieu est amour. Et puis, mais au ciel, quand Jean voit la révélation, la gloire, le trône de Dieu, c'est centré sur la croix. S'il n'y a pas la croix, il n'y a plus rien. Il est digne parce qu'il a vaincu à la croix. Et si dans le ciel, il peut y avoir une référence, si nous pouvons avoir un accès à ces choses glorieuses et divines, c'est parce que son sang a coulé. C'est parce que la victoire de la croix a eu lieu. Et si nous pouvons nous projeter dans cet avenir en disant « Nous sommes appelés à régner avec lui », c'est parce qu'il a vaincu et parce qu'il nous a rachetés. Alors aujourd'hui, il ne faut pas sous-estimer l'importance et la puissance de la croix, mais ça doit être au cœur de notre message. Non seulement un message du présent, mais notre avenir dépend de ce message aussi. Et dans le ciel encore, pendant l'éternité, on continuera à glorifier l'agneau de Dieu. On ne va pas dire, bon, c'est de l'histoire passée, la croix, maintenant qu'on est au ciel. Non, ce ne sera jamais de l'histoire passée. Ce sera toujours là devant nous. Dans cette révélation que Jean a, il ne voit pas simplement des êtres spéciaux. Il ne voit pas simplement l'agneau, il voit pas simplement le lion de Juda, mais il voit aussi l'agneau de Dieu. Et en ce qui nous concerne, et voir l'agneau de Dieu, ce n'était pas dans une situation de tristesse, mais de gloire. Et en ce qui nous concerne, pendant l'éternité, n'oublions jamais qu'on sera reconnaissant infiniment reconnaissant pendant l'éternité, au siècle des siècles, de ce que l'agneau de Dieu a versé son sang à la croix. Alors si pendant les siècles, on va être sur ce point-là, il faut peut-être qu'on commence un peu plus aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas négliger ce message-là, il ne faut pas négliger l'importance de la croix et comment on doit être reconnaissant pour ces choses. Parce que pendant l'éternité, ce sera l'image que nous aurons devant les yeux. L'agneau de Dieu qui a été immolé. Et on va conclure où il est dit au verset 11, « Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants, des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. » comprend qu'il y a du monde là-haut. Il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et on comprend qu'il y a de la puissance dans cette louange qui est donnée. C'est des myriades de myriades. Il y a des voix qui s'élèvent sur un seul message, « L'agneau est digne. » Verset 13, « Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendais qui disaient. » Et on comprend qu'au message céleste, ceux qui sont du monde terrestre sont invités à s'associer, à être sur la même note et qu'à l'unisson, on dise aussi à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Et ça, c'est ceux qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve. Est-ce que vous faites partie de ce nombre-là? Vous êtes quelque part là-dedans? Vous êtes quelque part soit dans le ciel, soit sur la terre, soit sous la terre, soit sur la mer ou dans tout ce qui s'y trouve? On fait partie de ce nombre-là. Et Jean voit cette révélation, cette vision où c'est l'univers qui va rendre gloire à celui qui est sur le trône et à l'agneau, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Verset 14, « Et les quatre êtres vivants disaient Amen. » On voit qu'il y a quelque chose de spécial avec ces quatre êtres vivants, comme si dans la hiérarchie, ils sont au-dessus des 24 vieillards. Maintenant, si vous me demandez exactement quel est leur titre, j'en sais rien dans ce gouvernement-là. Mais en tout cas, on voit que les quatre êtres vivants disaient « Amen » et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Et quand Jean a cette vision, il ne se contente pas de garder cette vision. D'ailleurs, on verra que il a cette recommandation d'écrire cette vision et de nous la communiquer. Et si c'était important que l'on ait l'écho de cette vision, que nous aussi, nous puissions voir avec Jean eh bien, la gloire du trône de Dieu, ce n'est pas pour satisfaire notre curiosité et qu'on puisse dire ce soir, finalement on a une petite idée un petit peu de ce qui se passe au ciel. Parce que ce n'est pas juste au ciel que ça se passe. Ça se passe sur la terre, sous la terre, sur la mer et partout. Et la conclusion de ces deux chapitres, c'est qu'ils se prosternent et ils adorent. Et nous sommes appelés, nous aussi, si nous avons compris qui est l'agneau de Dieu, si nous avons compris le sens de la valeur du sang de l'agneau immolé, eh bien, nous pouvons que nous associer aux voix des anges qui disent « Saint, Saint, Saint ». Nous pouvons que nous associer aux êtres célestes, aux 24 vieillards, aux quatre êtres vivants, et puis à ces myriades de myriades et à ces milliers de milliers, nous pouvons que nous associer avec eux. Et dès à présent, pas attendre d'être au ciel, hein, mais dès à présent, commencer à élever notre voix et à dire, il disait d'une voix forte. Et c'est peut-être un détail, mais ça ne l'est pas pour moi. Il disait d'une voix forte, pas timidement, mais d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne. Et nous avons besoin de revenir davantage à ce message et dans cette révélation de l'Apocalypse, dans cette révélation, dans cette prise de conscience de ce qu'est le ciel, eh bien, nous avons besoin dès ici-bas, nous aussi, de prendre conscience de la sainteté de Dieu et prendre conscience que le Jésus que nous servons, il est grand, il est digne, il est glorieux. Et les 24 vieillards se prosternent devant lui. Et peut-être trop souvent, et je reviens à quelque chose de plus concret, plus pratique pour nous peut-être ce soir, trop souvent, on considère Jésus comme notre ami, et on a raison, il est notre ami. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Il se présente à nous comme ami. Mais il ne faut pas lui manquer de respect. Et il ne faut jamais oublier qu'il n'y avait personne qui était digne, sauf lui. Et que c'est grâce à la victoire qu'il a eue que nous avons un accès au ciel. Que ce n'est pas de dire « Ah, ben, c'est bien, j'arrive au ciel. » On n'arrive pas au ciel comme ça. On peut avoir une porte ouverte, parce que Jésus a ouvert une porte. On peut avoir un accès au trône de Dieu, parce que, et on le verra dans le reste du livre de l'Apocalypse, à plusieurs reprises, c'est signifié, parce que nos robes ont été lavées dans le sang de l'agneau. Mais que si ce sang n'avait pas coulé, il n'y aurait pas d'accès pour nous. Et qu'on puisse, en prenant conscience de cette vision de l'Apocalypse, c'est bien de dire, mais Seigneur, tu es grand, tu es fort, tu es puissant, tu es digne, et nous aussi, peut-être, nous prosterner et adorer. Adorer vraiment. Nous prosterner vraiment. Pas juste avec quelques chants, avec du bout des lèvres, avec quelques mots, mais de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée. Et que cette vision, vous voyez, ce n'est pas une vision qui est là pour nous faire peur. Hein. C'est une vision pour nous amener à avoir davantage de respect et davantage de révérence, de dire, ouais, il est grand et digne de louange. Et qu'on puisse, dans les heures, les jours qui viennent encore, lorsque nous nous approchons de lui, pas arriver, vous savez, en disant « Hé, Jésus, au fait, j'ai quelque chose à te dire. » Attention, c'est à l'agneau de Dieu que vous parlez. C'est au lion de Juda. Je me souviens quand on était à l'école biblique, il y avait un étudiant qui venait du Burkina Faso. Vous voyez où c'est le Burkina Faso? Ouagadougou. Et à Ouagadougou, il y a un roi. Et ils ont un petit peu le sens de la royauté. Je ne sais pas si ça marcherait avec la reine d'Angleterre, mais en tout cas, ça marche au Burkina Faso. Il disait qu'au Burkina Faso, lorsqu'on demande une audience auprès du roi, on commence à se prosterner en direction du palais à plusieurs kilomètres avant d'arriver au palais. Et au fur et à mesure qu'on s'approche, se prosternent et ils arrivent quasiment à terre quand ils sont devant le roi. Je ne sais pas si vous, peut-être pour les dames plus romantiques, vous vous souvenez de ce roman qui était sur le roi du Siam. Ça s'appelait comment ça? Le roi et moi, c'est ça? Le roi et moi, Anna et le roi, où on voit qu'ici, dans la présence du roi, personne ne peut rester debout. Et que tout le monde doit se prosterner. Et on le voit dans le contexte humain. Mais si les hommes sont capables de le faire devant des hommes, à combien plus forte raison, quand on parle du roi des rois, du seigneur des seigneurs, personne n'était digne sauf lui. Et quand on réalise ces choses, on ne peut pas manquer de respect. Et on réalise que bien souvent on l'a fait. Qu'on dit, Seigneur, apprends-nous dès maintenant à avoir ce bon protocole, que ce ne soit pas juste un protocole dans le sens pour qu'on fasse les choses, non, mais ce respect intérieur et de dire, Seigneur, je me prosterne devant toi, je reconnais que tu es digne et c'est à toi seul que revient l'honneur, la gloire, la louange et la force. Amen. On prie ensemble. Seigneur, il est bon d'être dans ta présence ce soir et nous disons encore, nous avons besoin de toi. Apprends-nous à comprendre ces choses et avec Jean, à voir la gloire, la magnificence qu'il peut y avoir autour du trône de Dieu, à comprendre aussi le rôle fondamental et capital de l'agneau de Dieu qui a été immolé et que par son sang, il a racheté, il a vaincu et qu'à cause de cela, il est digne. Seigneur, nous voulons dire ce soir de tout notre cœur, à toi soit l'honneur, la louange et la gloire. Apprends-nous à avoir davantage de respect, la crainte de Dieu, de révérence, de pouvoir prosterner devant toi, de comme on doit le faire et dire toi seul est digne. Seigneur, nous ne voulons pas mettre notre confiance et notre respect dans les hommes quand à toi seul revient la gloire. Prends-nous à comprendre ces choses et à les voir avec Jean alors qu'il nous les montre. Et quel privilège nous avons de pouvoir réaliser, saisir et comprendre ces choses. Et le peu que nous comprenons est déjà formidable et prends-nous à en comprendre davantage encore, à saisir davantage et que, à partir de ce que nous avons entendu ce soir, de ce que nous avons lu ce soir, nous puissions grandir encore dans cette connaissance et te rendre davantage gloire et te rendre davantage honneur parce que tu es le seul qui en soit digne. Amen.